Pour deux critiques pour la première Dominique Philippe, le 25 avril 2002 à Saint-Gilles.
Ce roman, une des grandes trouvailles d'Aristote face à Platon, notre Platon moderne, c'est Hegel. On retrouvera tout le temps, au cours des années, cette simplification, parce que je dis bien que c'est une simplification, la position hegelienne dialectique. Et la dialectique veut remplacer tout. C'est pour ça que c'est une simplification. Aristote est le premier, et c'est un coup génial que saint Thomas a repris. Et tant qu'on n'a pas saisi ça dans saint Thomas, on n'a pas compris saint Thomas. On répète matériellement. Aristote a eu ce coup génial de distinguer dans la vie intellectuelle, donc dans notre vie humaine, distincte de la vie des animaux, le point de vue de la raison, logismos, logos, logismos, et le nous. En latin, la ratio, la raison, le mode humain, notre intelligence. Nous sommes des raisonneurs. Dites-vous bien, mettez ça dans votre tête. C'est le mode humain d'être des raisonneurs. C'est rien d'original. Vous êtes dans le genre humain quand vous raisonnez. On voit très bien ça, du reste. Il y avait une conférence à Fribourg, entre parenthèses, une conférence à Fribourg de Balthazar, le père Balthazar, il disait, quand le Christ est absent, les apôtres se disputent. Quand le Christ est présent, ils sont un dans le regard du Christ vers le Père. Dès qu'on abandonne le Père et qu'on se croit assez grand pour se diriger tout seul, on se dispute. Le logismos, logos, logismos, voyez, le raisonnement. Naturellement, l'homme raisonne. Et ce n'est pas très intelligent de raisonner toujours. Vous savez, ce qu'il y avait avant, la manière de préparer le café, les petits moulins de café. Alors on tournait, tant qu'il y avait du grain à écraser, c'était très bien, mais on ne le voyait pas et on continue de tirer. Et moi, le raisonnement, la plupart du temps, on dit, il continue de raisonner, il n'y a plus rien à écraser. Mais il raisonne. On raisonne pour raisonner. Sans doute pour se donner à soi-même une bonne raison qu'on est intelligent. Et justement, c'est parce qu'on n'est pas très intelligent qu'on raisonne. On doit raisonner, c'est sûr, mais on doit raisonner à un moment donné, pas tout le temps. On raisonne parce qu'on n'est pas très intelligent. Ceux qui mettent la logique au-dessus de tout, et ça existe, ça. Ceux qui mettent la logique au-dessus de tout croient qu'ils sont intelligents. Mais non, ce sont des raisonneurs. Si mon intelligence était uniquement une intelligence faite pour raisonner, la logique serait ce qui domine tout. Et je ne pourrai jamais parler de Dieu. Je ne pourrai jamais parler des anges. je ne pourrai jamais, je crois, arriver à l'amitié. Je raisonnerai. On raisonne pas tellement avec un ami. Quand on a vraiment un ami, on raisonne pas tellement. On lui dit, tu comprends ? Ben oui, il dit oui, bien ça va, alors. On raisonne énormément quand on est en terrain d'ennemi, d'adversaire. Et c'est devenu de là la dialectique. Et c'est vrai, alors on discute indéfiniment. Quand le Christ est absent, les apôtres raisonnent. Quand le Christ est présent, ils écoutent. Alors, cette grande invention d'Aristote, mais très profonde, il faut qu'on la redécouvre. Chacun d'entre nous, il faut la redécouvrir. Pas la répéter, mais la redécouvrir. Logismos nous. Le point de vue de la raison qui raisonne et le point de vue de l'intelligence qui comprend, qui saisit. Je crois que cette découverte d'Aristote en face de Platon est très très importante. La science du temps d'Aristote n'était pas très avancée. Il y avait la science mathématique, les mathématiques qui venaient d'Égypte. C'était les Égyptiens qui étaient les plus grands matheux du monde. Alors, une fois qu'on a fait cette distinction, logismos nous, raison, intelligence. Et d'un saint Thomas, le point de vue du raisonnement et le point de vue de l'intelligence. L'intelligence contemple, la raison raisonne. Si vous raisonnez tout le temps, vous ne contemplez jamais. Et c'est vrai que quand on raisonne, on ne contemple pas. Alors, il y a les deux. C'est la même faculté pour nous, d'intelligence, qui a deux manières de se développer. Par le point de vue très simple du raisonnement. Le raisonnement, ça se voit toujours, hein. Les psychologues aiment beaucoup le raisonnement et jugent de l'intelligence des gens par leur exactitude de raisonner. C'est facile, c'est plus facile. Faire passer des examens de logique, c'est relativement facile. L'intelligence, ah! C'est beaucoup plus difficile. Parce que, vous voyez, notre nature humaine raisonne. Notre personne humaine contemple. Tiens. Avec un ami, on raisonne très différemment qu'en face d'un professeur. L'examen, on raisonne. Avec un ami, on ne raisonne pas tellement. Je crois que ceux qui raisonnent tout le temps ne connaissent pas l'amitié. Et c'est intéressant de voir où va naître notre intellectus, notre intelligence comme intelligence. Elle va naître à partir de l'amitié. Pourquoi ? Ah, parce que l'amitié, on va regarder la personne. Vous savez que l'ami a la même nature que vous, mais vous n'y revenez pas tout le temps. Tu es mon ami parce que tu as la même nature que moi. Ce serait très faux de dire ça. Tu es mon ami parce que tu as la même nature que moi. Mais non, un ennemi a la même nature que vous. Ah, tu es mon ennemi parce que tu as la même nature que moi. Non, c'est aussi faux l'un que l'autre. Tu es mon ami parce que j'aime ta personne. Ah, voyez, vous découvrez la personne et vous découvrez l'intellectus, l'intelligence. Tandis que le point de vue du raisonnement, alors on a le point de vue du raisonnement, genre, différence spécifique, espèce, propriété, accident. Bon, il faut comprendre les cinq prédicables. En logique, vous avez vu ça. Ça, c'est le fruit de votre raison et raisonnement. Et toute la science se développe autour des prédicables. Et on appelle ça l'abstraction universelle. Et ça, tous, nous pouvons arriver à connaître ce que c'est qu'un genre, ce que c'est qu'une différence spécifique, ce que c'est que l'espèce, ce que c'est que le propre, ce que c'est que l'accident. Il faut le savoir, parce que c'est élémentaire. Ça, on n'a pas le droit de ne pas connaître les prédicables. C'est la raison. Le raisonnement se fait là. Et quand vous lisez un article de journal, c'est très intéressant de voir qu'il reste à ce niveau d'intelligence. Jamais plus. Et vous pouvez analyser un article comme ça. Et la science mathématique ou les sciences dépendant des mathématiques résonnent comme cela. Donc, c'est quand même, ça peut devenir quelque chose de très intéressant. Le raisonnement mathématique, genre, différence spécifique, espèce, il faut le savoir. Et on a ce qu'on appelle l'universel. L'universel univoque. Le genre animal. Vous êtes tous dans le genre animal. Mais si je vous regarde sur la lunette générique, je dirais, vous êtes des animaux très particuliers. Et c'est vrai. Mais chacun d'entre vous, vous êtes un animal. C'est vrai, genre. Différence spécifique à la raison. Vous êtes raisonnable. Tandis que le petit chat ou le petit chien ne l'est pas. La vache encore moins. Vous êtes raisonnable. C'est votre supériorité. L'espèce, vous êtes homme. Propriété, capable de rire. C'est la propriété humaine. C'est pour ça que quand vous riez devant des grands singes, ils commencent à être furieux. C'est très curieux de voir ça. Les singes ne supportent pas le rire de l'homme. C'est pas étonnant. Parce que les singes ne rient pas. Faites rire un singe. On dit propre de l'homme, c'est de parler. Mais non, les singes ont une voix. Ils crient, c'est le rire. Le rire est le propre de l'homme. Rire de façon intelligente. Pas le gros rire. Mais le rire intelligent, le sourire. Et ça agace les singes de sourire en face d'eux. Parce qu'ils ne peuvent pas répondre. Un homme, vous souriez, il sourit. L'enfant, vous souriez, il sourit. Même s'il ne comprend pas, il sourit. Parce que tout le monde sourit. Le sourire n'est pas scientifique. Ah, tiens. Non, ordinairement, les savants sont sérieux. Le sourire n'est pas scientifique. Il y avait un orthodoxe qui avait fait une thèse sur le sourire du Christ. C'était pas bête, hein? Le Christ a souri. Il a souri à Marie. Le sourire de l'enfant. Le sourire est d'ordre affectif. Il n'est pas la science. C'est l'homme qui sourit. Ah, c'est la propriété de l'homme. Alors, la propriété, c'est quelque chose qu'on voit. Et quelque chose qui est propre à l'homme. Et que les autres animaux, en dehors de l'homme, n'ont pas. Les enfants emportés par des louves ne sourient plus. Vous souriez parce que vous êtes éduqués avec des hommes. Et le sourire est signe de l'humain. Alors, la ratio, la raison, le logismos se développe par ces connaissances génériques, différents spécifiques, propres, communs. Mais l'intelligence, le nous, l'intelligence, l'intellectus, se développe autrement. Il y a un autre registre. Nous avons donc deux registres de connaissances. C'est déjà très beau d'avoir précisé la distinction de ces deux registres. Les modernes avec Descartes ne mettent plus de distinction. Et quand vous lisez un Lavelle, plus de distinction. C'est donc une distinction qu'il faut retrouver. Il faut retrouver. Je ne sais pas dans quelle langue elle est le mieux gardée. La distinction au point de vue latin, grec et français entre la raison raisonnante et l'intelligence qui comprend et qui contemple. Là, vous prenez la distinction à partir de leur activité. Et c'est la même puissance. Hein. Je raisonne et je contemple. Bon. Je peux saisir, je crois, très vite, qu'il y a là deux activités très différentes. Le raisonnement se fait en fonction de ce qu'on appelle l'abstraction universelle. L'abstraction universelle me donne tout simplement l'universel générique, l'universel spécifique, différent spécifique, l'universel propre, l'universel accident. Le langage vide l'universel. Au moins le langage, notre langage. parce que le chinois a un type d'abstraction dans le langage qui n'est pas tout à fait le même. Il serait intéressant de voir exactement quelle est l'abstraction. Il y a une abstraction dans l'écriture, dans le langage chinois. Mais l'abstraction n'est pas la même que genre, différent, spécifique, propre et accident. Ça, c'est très particulier. Et ce serait intéressant de voir. Et c'est pas le problème ici. Il faut avoir l'intérêt de ça. L'intelligence dépasse le genre et saisit des notions qui ne sont plus génériques. Mon intelligence saisit autre chose dans la réalité. L'être. Et je prends tout de suite l'être. Quand vous dites « ceci est », toutes les réalités existent, toutes celles que je peux toucher et voir. Donc, j'ai une notion universelle beaucoup plus vaste que la notion générique. Quand vous pensez « ceci est », et dans toutes les langues, il y a cette différence entre les notions génériques, comme animal, comme couleur, les qualités, et puis cette notion particulière, qui est au-delà du genre. Elle est au-delà du genre. Je dirais, elle est analogique. Ah, vous voyez à quel moment va naître la distinction entre univoque et analogique. Et ça est très important. C'est très important de comprendre la distinction entre les deux. Aristote l'a fait comprendre tout simplement par le point de vue de l'attribution. L'attribution est attribuée quand on a une notion analogique, de multiples manières, de diverses manières, quand vous dites « ceci est ». L'existence, est-ce que c'est une notion générique ? Non. Elle transcende les notions génériques. Quand vous dites « animal », est-ce que c'est une notion, un concept univoque, générique et univoque, attribué de la même façon à l'homme et à la vache ? La vache est un animal. L'homme est un animal. C'est curieux. Tandis que quand vous dites « ceci est », c'est une notion qui transcende, qui dépasse la notion analogique, la notion univoque. Vous dites « l'animal existe, l'homme existe », et vous pourrez dire « Dieu existe ». Tiens. Tandis que vous ne dites pas « Dieu est animal », non. toutes les notions univoques, je ne les attribue pas à Dieu. Et je les attribue différemment à l'homme et à l'animal. Alors que ces notions en elles-mêmes sont les mêmes. Mais tout de suite, elles sont différentes par le point de vue générique. Donc, la notion analogique implique une abstraction différente. Et je crois ça alors très important. Vous avez deux types d'abstraction. L'abstraction dite univoque et l'abstraction dite analogique. C'est la première chose qu'il faut voir et être très précis là-dessus. L'abstraction univoque, c'est par exemple animal. Animal est animal, tout être vivant. Un être non vivant, vous ne dites pas à la pierre ou au bois espèce d'animal. Non. Vous avez un petit chien à animal. Vous voyez que la notion générique est limitée et très déterminée. Elle regarde tout vivant corporel. Un être qui n'a pas de corps n'est pas un animal. Nous avons un corps et par notre corps, on est animal. On peut faire des comparaisons entre le corps de l'homme et le corps du porc, du cochon. On peut faire des parallèles. Il a quatre pattes, nous avons deux graisses génériques. Deux pattes. Et puis deux membres, on n'est plus à quatre pattes. C'est curieux. Aristote a beaucoup réfléchi là-dessus. Parce que un petit enfant marche à quatre pattes. Le genre domine chez lui. L'animal domine chez lui. La première domination d'animal, tiens, il se lève. Tandis qu'un chien... Ça fait le beau. Mais ça le fait momentanément quand un morceau de sucre attire. Et il continue pas de marcher. La station droite. Et quand on vieillit, on retourne l'animal à quatre pattes. Très curieux, ça. Vous voyez, c'est la réflexion vis-à-vis de ça qui montre que notre intelligence a deux manières de connaître. C'est très important de comprendre ça, parce que cela est ignoré des modernes. Et c'est la première confusion qu'ils font tout le temps. Parce que si on ne voit pas ça, on ne peut pas avancer. On reste dans le confus. Alors on avance du côté générique, mais l'intelligence ne s'élève pas. Il y a deux abstractions typiques, tout à fait différentes. L'abstraction générique, l'abstraction spécifique, l'abstraction du propre et l'accident. Donc, vous avez cinq modalités d'abstraction universelle. Tout simple. Vous avez cinq modes particuliers d'universaux. Et cela, vous l'avez naturellement. crois que dans toutes les langues, vous trouverez ça. Peut-être dit différemment, mais c'est quelque chose de commun à l'homme. Et il y a dans l'homme une possibilité d'aller plus loin. Un nouveau type d'abstraction. Vous pouvez reconnaître que toutes les réalités que vous pouvez expérimenter existent. Ah, l'être n'est pas une notion générique. C'est la première chose qu'il faut dire. L'être n'est pas une notion générique. Alors, il faut bien la nommer. Vous dites qu'elle est analogique. Ah, l'apparition du terme analogique. Le terme analogique était en premier lieu chez les mathématiciens. C'est très curieux, ça. Analogos. C'est un mot grec, hein ? Analogique. C'est un mot grec francisé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quelque chose, une abstraction qui transcende l'abstraction générique, animale. Quand vous dites d'un homme espèce d'animal, vous dites c'est une injure. C'est pas une injure puisque génériquement vous êtes un animal. Et voyez, quand vous dites à quelqu'un espèce d'animal, vous l'appelez par le genre et vous oubliez sa raison formelle. Quand vous dites à quelqu'un tu existes. C'est pas une injure. Et c'est plus une notion générique. C'est une notion au-delà du point de vue générique. Comment se fait cette abstraction ? C'est ça l'intérêt. Comment se fait cette abstraction ? Parce que c'est mon intelligence. Il ceci est. Et très vite, l'enfant fait la distinction entre papa, il dira papa à tous les hommes. La notion générique. Et puis, il dit papa, il est. Regardez, c'est très intéressant de voir ça chez un enfant. Le passage d'une notion générique à une notion analogique. Alors, la grande question serait de savoir si c'est une distinction naturelle ou une distinction de culture. Aujourd'hui, beaucoup diraient c'est une distinction qui revient de votre éducation, de votre culture. Donc, elle est tout simplement une distinction qui ne se retrouvera pas dans toute culture, qui se retrouvera dans une culture particulière et elle pourrait disparaître. Et je dis non, c'est une distinction de nature. Ah. Pourquoi je dis que c'est une distinction de nature ? Que l'intelligence, naturellement, abstrait, génériquement, et que l'intelligence a un procédé particulier qui est de connaître analogiquement. C'est intéressant, ça, de se poser le problème. Quand vous passez de notions génériques à une notion analogique, par exemple, quand vous dites « ceci est une pierre », notion générique, « ceci existe », est-ce que cette distinction que vous faites est une distinction uniquement qui dépend d'une culture, ou c'est une distinction qui relève de la nature même de votre intelligence? Je me souviens, c'était chez les Chartreux, il y avait de nouveaux étudiants venant de l'Institut catholique de Paris qui me soutenaient, mais fortement, que là c'était une question intéressante, avoir une vocation de Chartreux ou avoir une vocation de se marier. Est-ce une distinction fondamentale, naturelle et surnaturelle, ou est-ce qu'une distinction uniquement de culture? Alors, il soutenait hardiment que c'était une distinction de culture. Donc, artificielle. La culture, c'est artificiel. C'est quelque chose qui s'ajoute. Alors, une distinction purement de culture. On a discuté longuement là-dessus. Vous comprenez que c'est très intéressant et c'est très important. Est-ce que votre vocation à Saint-Jean, c'est une distinction de culture, ou est-ce que c'est une distinction qui est naturelle? Vous n'êtes peut-être jamais posé la question, hein? Et c'est intéressant. Et on touche là quelque chose d'extrêmement profond. Et on est aujourd'hui en face d'un monde qui, ne reconnaissant plus la nature, ne reconnaît plus le surnaturel. Si la nature disparaît, la surnature disparaît. Et on ne voit plus qu'une distinction qui vient de la culture. Et c'est très curieux de voir des jeunes qui soutiennent hardiment, et c'était d'autant plus étonnant que c'était de la Chartreuse, que la vocation de Chartreux, à la différence de se marier, c'est uniquement une distinction de culture. Alors là, vous voyez, il y a le point de vue surnaturel et le point de vue naturel. Distinction du mariage ou distinction de la vie religieuse, est-ce que c'est une distinction de culture? Que ce soit une distinction de culture, d'accord, mais radicalement, est-ce une distinction qui vient de la réalité? J'ai une nature humaine qui naturellement est faite pour le mariage. Mais en raison de la grâce, qui n'est pas culturelle, qui est une intervention directe de Dieu, la distinction entre vie religieuse et vie du mariage est une distinction qui dépasse de beaucoup le point de vue culturel. C'est une distinction qui repose sur une réalité, la réalité du choix de Dieu. Et alors là, je dirais, il y a le point de vue naturel et le point de vue surnaturel. Est-ce que la distinction du naturel et du surnaturel est-elle une distinction de culture ou une distinction naturelle et surnaturelle? Alors, je passe de là à la distinction entre dire l'homme est un animal, dire l'homme est un être, il existe. Est-ce que la distinction entre attribuer à l'homme, à moi-même, attribuer le genre animal, ou attribuer à moi-même le point de vue être, est-ce que c'est une distinction réelle ou une distinction purement artificielle de culture? Oui, c'est important ça. Parce que je dirais, mon intelligence a été formée à la grecque, selon Aristote. Ou est-ce que c'est une distinction réelle, naturelle? Il y a là un très très gros problème. Et il est actuel, ce problème-là. On veut tout ramener au point de vue de la culture. Pourquoi? Parce que ramenant tout au point de vue de la culture, on ramène tout à l'homme. Qu'est-ce qui a fabriqué la culture? Qu'est-ce qui a été à l'origine de la culture? L'homme. La culture allemande, française, anglaise. Qu'est-ce qui en fait ça? C'est pas Dieu. Depuis la distinction de la tour de Babel, c'est l'homme. C'est l'homme qui de fait a distingué. Alors, on voudrait toujours les unir, hein. Avoir une langue, ce que le latin était pour l'Europe. Arriver à un facteur commun. Et non, le poids humain est arrivé à faire une distinction. Mais attention, tout n'est pas l'œuvre de l'homme. Est-ce que la distinction entre homme et femme est une distinction de culture ou une distinction de nature? Vous voyez, on arrive aujourd'hui à croire que tout provient de la culture. C'est-à-dire que tout provient de l'homme. Et ça m'a beaucoup frappé de voir que ces étudiants qui venaient de l'Institut catholique de Paris, qui étaient déjà prêtres, entrer à la Chartreuse et disaient que leur vocation de Chartreux était culturelle. et non pas divine. Est-ce que la vocation de se donner totalement à Jésus à travers un ordre religieux, est-ce que c'est une distinction purement naturelle, purement culturelle? C'est très important, ça. Est-ce que la distinction entre l'attribution, dire Pierre est un homme, Pierre existe. Voilà deux affirmations. Est-ce que ces deux affirmations reposent uniquement sur la culture? Ou est-ce que ces deux distinctions reposent sur quelque chose qui est réel? Et on voit tout de suite deux mondes qui vont se développer, chacun dans leur sens. Et on est aujourd'hui devant ce problème-là en théologie. Et donc, en philosophie, c'est évident. Mais non seulement en philosophie, mais même en théologie. Alors, je crois que nous devons le voir. Hein. Parce que vous comprenez très bien la distinction que je fais entre ratio et intellectus, entre l'intelligence qui abstrait génériquement et l'intelligence qui abstrait analogiquement, est-ce que c'est une distinction purement de culture française, grecque, de culture européenne, grecque, ou est-ce que c'est une distinction qui est naturelle, réelle? Vous voyez que le problème est, là est très intéressant. Autrement dit, lorsque vous dites « l'homme est un animal raisonnable », l'homme est un animal raisonnable. Est-ce que vous exprimez quelque chose de réel? Et quand vous dites l'homme est un être qui dépasse toutes les autres réalités que j'expérimente, que je peux expérimenter, qui est unique, parce qu'il est intelligent. Il a une intelligence. Et il peut raisonner et faire œuvre d'intelligence pour me montrer que dire qu'il existe, c'est autre chose, réellement, que de regarder sa nature. Alors vous voyez que tout le problème en vient de savoir si mon intelligence, quand elle connaît, est capable d'atteindre la réalité. Ou si mon intelligence est incapable d'atteindre la réalité et reste toujours à travers un voile, la culture. Et qu'elle n'atteint que la culture. Elle n'atteint pas la réalité. Vous voyez, on touche là quelque chose d'extrêmement important, de capital. Est-ce que mon intelligence est capable d'atteindre la réalité dans ce qu'elle est? Si mon intelligence est capable d'atteindre la réalité dans ce qu'elle est, j'ai donc deux registres de connaissances. Le registre d'une intelligence qui connaît par genre différents spécifiques espèces, donc qui atteint un universel univoque, ou une intelligence qui est capable d'atteindre la réalité dans ce qu'elle a de plus elle-même. L'être de l'homme, différent de l'être de l'animal, différent de l'être de la pierre, et que l'intelligence est capable de distinguer la diversité de l'être humain, de la diversité de l'être animal, et donc d'atteindre cette diversité analogique de tout ce qui est. Tout ce qui existe, existe dans une extraordinaire diversité qui est une diversité analogique dans l'ordre de l'être. Si mon intelligence est capable d'atteindre ce qui est réellement, mon intelligence reconnaît alors qu'il y a en effet deux manières de connaître, le point de vue de la raison, le point de vue de l'intelligence. Il y a deux registres. Et la connaissance philosophique est dans le registre de l'intelligence qui connaît la réalité comme être, et la science qui connaît la réalité sous les aspects génériques, spécifiques, propriétés, accidents. Vous voyez qu'il y a là, tout de suite, c'est pour ça que je voulais tout de suite vous rappeler ça, vous vous trouverez devant un monde, le monde qui se construit actuellement. C'est un monde qui veut que tout dépende de l'homme. Et on est en train de façonner l'intelligence de telle manière qu'elle puisse toujours dire l'homme, l'homme, l'homme. Parce qu'on met les mathématiques au point de départ de tout développement intellectuel. Si je pars des mathématiques, je ne pourrai pas distinguer l'aspect générique et l'aspect analogique. Pour pouvoir distinguer ça, il faut que mon intelligence puisse distinguer dans la réalité, l'aspect générique et l'aspect particulier de l'analogie. Donc il y a là une distinction fondamentale qui tout de suite m'oriente vers une recherche ou deux recherches très différentes. L'une où les mathématiques sont premières et maintiennent en moi un point de vue de l'homme qui, par sa culture, transforme tout. Et de l'autre côté, au contraire, l'homme qui découvre qu'il y a quelque chose de plus fondamental que la culture.